Apple Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée, c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Bienvenue à Apple Différemment. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Audrey qui est ma co-animatrice, formatrice, autrice, youtubeuse Apple, qui, ben en fait, c'est grâce à elle s'il y a un peu de sérieux dans cette émission-là, parce que moi, je ne suis qu'un fanboy Apple. Bienvenue à tous à Apple Différemment et bonjour Audrey.
Bienvenue à tous en tout cas. Et Mathieu, donc, créateur de podcast et comme tu l'as dit, fanboy Apple. Comment ça va?
Oui, ben ça va bien. On a hâte aux vacances. Les vacances arrivent. Ça a été compliqué pour tout le monde au printemps, mais là, j'ai vraiment, vraiment hâte aux vacances. Et puis, ben, de décrocher un peu de ce télétravail qui nous enchaîne dans nos bureaux respectifs et qui, je pense que toi, tu arrives bien à faire la coupure avec le télétravail versus le travail versus ta vie au quotidien, non?
Ouais, j'essaye, ouais. Ben déjà, comme on en avait parlé, avoir une pièce séparée, je sais pas si c'est ton cas, mais c'est quand même pratique. Moi, je suis. Ben, le problème, c'est que je suis passionnée par ce que je fais, donc je peux rester très tard. Donc, ça va. J'ai un garde-fou à la maison qui me dit eh oh là, il est 19h, il est temps d'arrêter. Donc, ça va. On essaye de maîtriser tout ça, mais c'est pas évident.
Ah, dis-moi, Audrey, on a eu un mois, une semaine assez mouvementée en termes de nouveautés Apple, des derniers jours, en fait, mouvementés sur les nouveautés Apple. On va en parler, ça va vraiment être le sujet principal de cette émission. Mais ce qui a retenu tout le monde en haleine dans les dernières semaines, c'est le combat ultime chez Apple Différemment entre Audrey et moi. On s'est lancé un défi, vous pouvez faire ça sur vos Apple Watch avec vos amis, lancer des défis pendant une semaine entre vos amis. Et je dois reconnaître que Audrey, de un, est vachement plus compétitive que moi et en forme que moi. Alors, dans les notes de l'émission, vous allez avoir le tweet qui résume bien le fait qu'Audrey a gagné plein de trophées et puis qu'elle est super en forme. Et que je pense, est-ce que je me trompe, que ça te motive beaucoup les trophées, toi, en ce moment, dans l'Apple Watch?
Alors en fait, comme je l'avais dit au dernier numéro, j'avais besoin d'un mini coach, on va dire, pour me bouger parce que je m'en croûtais un peu, en gros. Je faisais pas assez d'activité physique un petit peu tous les jours, même si j'allais marcher un peu, promener mon chien, etc. Pour moi, c'était pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une Apple Watch à la base, pour, comme je le faisais avec les Fitbit avant, me mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi, et puis me faire bouger plus. Et en fait, l'Apple Watch, elle fait bien son job, parce que clairement, je me prends au jeu, comme tu dis, des trophées. Il y a eu le trophée du yoga, tu vois, j'ai fait ma première séance de yoga, alors que j'en aurais jamais fait sans ça. Du coup, je fais du yoga maintenant, je sais pas, 2-3 fois par semaine, donc je trouve ça vraiment... Enfin, c'est une bonne idée de dire, c'est la journée de tel sport, le yoga par exemple, donc... faites au moins 30 minutes de yoga. Et puis, tu te dis, je vais essayer, pourquoi pas. Et puis après, comme on remet une image à un enfant, nous, on a notre petit trophée virtuel, on va dire, sur l'Apple Watch et sur l'iPhone. Et du coup, c'est clair, je me prends super au jeu. Et puis, le petit combat ultime, comme tu dis, entre nous, c'est clair que j'y ai pris goût. Je me suivais plus tôt et tout pour aller marcher et puis pour faire des points. Hein.
Alors moi, ce que j'ai remarqué là-dedans, quand on fait une compétition, c'est que ça va pas, ça va s'adapter à vos objectifs que vous vous êtes donnés. C'est-à-dire que quand même, vous êtes donné des objectifs de 300 pas versus l'autre qui aurait 600 pas. Mais c'est le nombre de fois que vous complétez cet objectif-là qui font que vous êtes dans la compétition. Ce qui veut dire que vous pourriez compétitionner contre une personne ultra sportive, chose que je ne suis pas, versus une personne qui l'est moins. Et dans le fond, vous seriez au même niveau en termes de compétition, c'est-à-dire d'atteindre vos objectifs. Mm-hmm. Alors l'idée, c'est quand vous partez une compétition, c'est pas de diminuer vos objectifs si vous êtes très, très sportif versus l'autre personne, c'est de garder vos objectifs hauts que vous avez habituellement pour vous, et vous allez pouvoir faire une compétition. Ce qui fait que la compétition, je l'ai trouvé bien, j'ai trouvé juste dans les faits, parce que si tout le monde garde ses niveaux d'activité habituels, ben une compétition peut se faire très bien contre un super ultra sportif. C'est juste d'être capable, en fait, d'avoir de la régularité, en fait, dans sa journée. Et puis toi, ben, t'as gagné le trophée du défi. Hein? T'as gagné aussi un trophée pour une semaine parfaite parce que t'as complété tes 3 cercles. T'as gagné aussi un trophée de la victoire de ce défi-là. Bref, c'est au minimum 3 trophées. Puis dans la semaine, t'as gagné le trophée qu'on a vu passer dans l'Apple Watch, qui est la Journée mondiale de l'environnement, parce qu'il y a des trophées thématiques qui arrivent au niveau de l'Apple Watch.
Oui, et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport au fait qu'on peut très bien avoir un défi avec quelqu'un qui est sportif ou qui l'est moins, c'est qu'en fait, ce qui compte, le calcul des points est effectué à chaque fois que tu dépasses d'1% ton objectif quotidien, donc peu importe lequel... de quel objectif il s'agit, tu as un point. Et tu peux faire 600 points maximum par jour. Donc, dès que tu dépasses 100%, tous les points que tu vas faire en plus comptent pour un point et dans la compétition. Et du coup, c'est pour ça, comme tu dis, on peut avoir des objectifs totalement différents et le calcul est super bien fait. C'est vraiment très bien étudié. Et en fait, je pense que tout le monde se prend un peu au jeu et que c'est sympa à faire entre amis.
Et puis, dans le fond, ça prône surtout la régularité. Alors ça, c'est bien l'idée de ce qu'il y a en arrière. Et j'ai aimé ça. Et du coup, quand on a mis les résultats, le fait que j'étais un gros glandeur sur certaines journées par rapport à toi, j'ai de mes amis qui ont commencé à m'envoyer des défis pour gagner facilement le trophée des défis. Alors, c'est ça. Si vous voulez gagner ce trophée-là facilement, je pense que vous pouvez me faire attention. J'arrive bientôt dans ma semaine, dans mon mois de vacances, où là, je vais prendre ça plus au sérieux, vous battre. Alors, c'est à vos risques et périls. Dans l'actualité, ce qu'on a éclipsé grâce à notre défi, mais qui est revenu quand même dans les fils Twitter, c'était le 13e anniversaire du lancement de l'iPhone. 13e anniversaire du lancement de l'iPhone et 10e anniversaire du lancement de l'iPhone 4 qui arrive avec un nouveau design à cette époque-là. Il y a 10 ans, vous savez que j'aime beaucoup l'histoire et je me suis retrempé dans la keynote où Steve Jobs présente...
Tu t'es retrempé?
L'iPhone. retrempé, ouais. Oui, ça se dit pas? Je me suis remis...
Replongé. Replongé.
D'accord. Okay. J'ai revisionné la keynote du dévoilement de l'iPhone et j'ai eu plaisir à réécouter ça, où il expliquait que c'était un téléphone, que c'était... il y avait trois choses qui répétaient tout le temps au début, puis c'était bien drôle. Toi, Audrey, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as eu l'iPhone dès sa sortie?
Non, le premier iPhone que j'ai eu, c'était le 3GS, je crois. Parce que clairement, à l'époque, je travaillais pas dans la tech et j'avais pas les moyens. En plus, c'était que chez un opérateur spécifique, chez Orange, je crois, la première année. Donc, c'était vraiment très très cher les forfaits et le téléphone en lui-même. Donc, j'avais clairement pas le budget au début, mais je crois que c'est le 3GS que j'ai eu en premier. En tout cas, j'ai eu le 4, c'est sûr. Et puis après, j'ai à peu près vu passer tous ceux qui ont suivi. Pas forcément moi, je les ai pas tous eu moi, mais j'ai eu soit avec des clients ou soit en test. Mais ouais, non. Et toi, le premier que tu as eu, c'était quoi?
Le 4.
Le 4.
Le 4. J'aimais pas. En fait, pour être très transparent, j'ai été sur BlackBerry très très longtemps. Dans la compagnie où j'étais, c'était vraiment le téléphone. Et je me voyais pas à l'époque avoir 2 téléphones. Alors j'ai eu beaucoup de BlackBerry. Et à un moment donné, à la compagnie, ils ont fait le switch. J'étais bien content. C'est tombé sur iPhone. Et c'est ça. Ça a été le 4, le premier téléphone que j'ai eu. Et c'était vraiment le design que je préférais parce que, en termes de design, je trouvais qu'à l'époque, quand ils sont sortis iPhone, à part l'affaire qui était très importante, c'était d'avoir un contrôle tactile, toutes ces nouveautés-là, le doigt et ainsi de suite par rapport à BlackBerry. Mais en termes de design, derrière était sensiblement le même que j'aimais pas particulièrement le design du iPhone à l'époque, mais quand le 4 est sorti avec ses franges et le fait qu'ils soient un peu plus carrés, je suis un amateur des choses très très carrées. j'étais content de l'avoir. Alors moi, ça a été le 4, mon premier.
OK.
avec la fiche 32 broches, hein, tu te rappelles, la grosse ouais. avant Lightning.
Mm-hmm. On la regrette pas.
Alors aujourd'hui, non, vraiment pas, vraiment pas. Aujourd'hui, on va parler de l'événement de la WWDC, qui est un événement réservé aux développeurs, mais qui est en fait, pour le grand public, un événement où on dévoile toutes les nouveautés au niveau logiciel. Alors évidemment, maintenant, chez Apple, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes logicielles. Il y a l'Apple Watch, il y a tvOS pour la télé, il y a évidemment les Mac, il y a iOS, iPadOS, ça, on va en parler beaucoup. Mais juste avant, je voulais vous parler qui a présenté cette WWDC, les nouveautés en fait, qui était le maître de bal, le maître de cérémonie de ça, c'était Craig Federighi. Craig Federighi, c'est, il est parfois appelé Air Force One, Air pour les cheveux, pas Air, le A-I-R de l'avion, parce que vous avez remarqué, c'est une personne avec un beau... Nous, au Chinois, on appelle ça un beau toupette. Fait que ça doit être une frange ou une belle... Je sais pas comment on dirait en France, mais...
On n'a plus beaucoup de franges comme ça.
Non, c'est ça.
Lui, il est surnommé... Une belle
chevelure. Ouais, ouais. En tout cas, il est à contre-courant, on va dire, des modes actuels au niveau capillaire. Et c'est le vice-président senior chez Apple pour tout ce qui est logiciel. Il est en charge des développements pour les principaux systèmes d'exploitation. Il supervise particulièrement tout ce qui est macOS, iOS, iPadOS. Il a commencé chez Apple par le fait que Steve Jobs avait Next. Et quand Steve Jobs est revenu à la barre d'Apple au milieu des années 90, Craig est arrivé avec lui. Craig, à l'époque, travaillait sur un Enterprise Object Framework, EOF. C'était une technologie logicielle destinée à aider les grandes entreprises avec leurs ordinateurs à base de logiciels. Il a travaillé chez Apple par le rachat, en fait, la fusion entre Next et Apple dans les années milieu 90, 94, en fait. Et il a travaillé sur EOF jusqu'en 99 chez Apple et il a quitté Apple pour aller chez une compagnie qui s'appelait Ariba. Et il est revenu en 2009 avec Snow Leopard, et ça a été, en fait, sa première démo où il est arrivé sur le stage, sur la scène, devant tout le monde. Et depuis 2009, il a pris des galons pour être maintenant une personne excessivement importante. Je vous mettrai dans les notes de l'émission un lien sur le fait que, sur les entrevues qu'il a fait. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Craig Federighi. Il a une maîtrise en informatique de Berkeley, un bac en génie électrique et informatique de Berkeley aussi. Il a toujours été dans le même écosystème en Californie, travaillé un petit peu chez Oracle, a quitté parce que lui aussi, comme Tim Cook, a été séduit par Steve Jobs à l'époque de Next. Mais somme toute, une bonne personne, aimé de tout le monde, famille, qui a pas beaucoup bougé. Fait que des fois, les gens heureux n'ont pas d'histoire, ça s'adapte très bien à Craig Federighi. Et c'était lui le maître de bal de l'événement WWDC. Une keynote virtuelle, Audrey, est-ce que tu as aimé ces keynotes-là virtuelles en 2020?
Bah, écoute, ouais, pour moi, c'était... Enfin, ils nous ont prouvé que ça pouvait être agréable à regarder, parce qu'on s'est tous un peu demandé comment ils vont présenter ça. Alors, tu sens qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot derrière, parce que c'était millimétré. On aurait vraiment dit un long métrage, du coup. J'allais dire un court métrage, mais vu que ça a duré presque 2 heures, c'était un long métrage, et c'était vraiment... très très bien composé, et du coup clairement, mais faisons des keynotes virtuelles tous les ans, enfin, hormis je pense pour les développeurs qui peuvent c'est bien de se, tu vois, comme nous on se connaît que à distance, mais parfois c'est bien de se rencontrer aussi, parce que on va aborder des sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder quand on est que à distance. Et je pense qu'il y a pas mal de développeurs aussi qui ont des opportunités ou qui rencontrent des gens quand il y a une vraie keynote sur place. Mais en tout cas, là, la keynote virtuelle, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. T'as trouvé ça comment, toi?
Effectivement, Apple a juste prouvé sa maîtrise. Là je vais parler en fanboy. Hein, a juste prouvé sa maîtrise incroyable de l'image sur toutes les facettes. Il y a, je pense, j'ai vu des tweets passer, il y a eu équité en termes hommes-femmes dans les présentations, ça c'est bien. Il y a certains qui n'étaient pas trop contents par rapport au fait qu'il n'y avait pas équité sur les personnes de couleur. Mais bref, moi j'ai trouvé que c'était super bien, c'était très visuel, mieux fait que sur stage. En fait, moi j'ai préféré ça... que sur une scène habituelle, parce que je trouvais qu'on voyait mieux les détails des interfaces, les détails des nouveautés fonctionnelles des appareils. Alors moi, personnellement, j'ai préféré ça.
Oui,
en tant que développeur, je sais pas si je préférerais ça, je suis un peu d'accord avec toi, ou quand on est développeur, quand on a des conférences avec les gens proches, ben il y a d'autres informations qui sont pas scriptées, qui sont intéressantes à avoir, où tu peux parler peut-être plus dans un couloir avec un développeur de tel ou tel point, où tu peux forer un peu dans l'information, comme tu dis. Mais moi, en tant que spectateur, uniquement de la keynote, j'ai vraiment, vraiment préféré comme la mouture de cette année.
Ouais, on s'en est pris plein les yeux, ça a été très très rapide. Alors ils ont enchaîné, hein, parce que 2 heures, c'était... Enfin, je sais pas, moi je suis sortie de là, c'était un peu... waouh, enfin éprouvant dans le sens où on... Enfin, mon ressenti était un peu mitigé parce que je me suis... En fait, je trouvais que ce qu'ils annonçaient, c'était pas waouh, c'était bien, c'était des trucs qu'on attendait. Bon, donc on attendait l'effet waouh, donc on l'a eu avec... macOS 11, mais enfin, moi, personnellement, je l'ai eu. Mais après, je trouvais ça très, très chargé. Et en même temps, c'était... Enfin, je sais pas trop comment expliquer. J'étais contente, mais je trouvais ça un peu longué par moment. Parce qu'en fait, je pense que tout était un peu au même niveau, au niveau des annonces. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il y avait beaucoup de choses. Du coup, peut-être un peu tous au même niveau. Tout au même niveau. Et il fallait... J'ai un peu du mal à expliquer, en fait. Il faudrait que j'analyse ça. C'était très rythmé, mais à la fois très rythmé haut. Et du coup, il n'y avait pas de relâche et pas de reprise, tu vois. C'était...
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que dans le fond, tu sais, habituellement, on est habituellement. C'est un pléonasme, mais ce qu'on remarque des fois dans des conférences, c'est qu'il y a des grands, grands moments très, très intenses versus des moments un petit peu plus longués. Alors, c'est rythmé comme ça. Ce qu'on a vu dans cette présentation-là, et je pense que c'est dû au fait que c'était préenregistré, c'est que tout était à un bon niveau. Alors, il n'y avait pas des moments extrêmement excitant comme des mouvements extrêmement tristes,
voilà,
ou longs. Alors, c'était toujours sur un bon rythme. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. T'as mis dans les notes de l'émission que c'est une année de perfectionnement. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Ben, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on arrive à... Alors, j'ai l'impression qu'on dit ça aussi tous les ans, mais là, Apple a vraiment poussé ses systèmes un peu au niveau mature, c'est-à-dire... on est vraiment, et vous allez le voir dans les annonces, enfin les présentations qu'on va faire des nouveautés, c'est quand même de l'ordre du détail, où Apple a perfectionné telle fonction, a amélioré telle autre. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une année où il n'y a pas de grandes nouveautés, comme on en a eu les années précédentes. Mais en tout cas, pour les utilisateurs avancés comme nous, on s'est régalé parce qu'en fait, c'est plein de petits détails qu'on attendait et qui vont améliorer l'utilisation de nos appareils. Après, pour le grand public, je ne sais pas, peut-être que du coup, niveau matériel, ça va peut-être contrebalancer avec la keynote de cet automne, où il y aura peut-être là quelque chose de plus nouveau, je ne sais pas, un nouvel iMac. Voilà. En tout cas, il va falloir équilibrer entre le matériel et le logiciel, puisque le logiciel, je pense que tous les geeks comme nous sont super contents. Le grand public, je ne sais pas trop.
Ouais, effectivement. On va aller dans le vif du sujet avec les premières plateformes qui ont été présentées, les plateformes qui propulsent les téléphones et les tablettes, iOS 14 et iPadOS 14. Qu'est-ce que tu as retenu des nouveautés cette année? Qu'est-ce qui a attiré le plus ton attention et quelles nouveautés as-tu hâte vraiment d'essayer? Ou en tout cas, évidemment, tu nous as habitué à faire des beaux vidéos sur YouTube. Quelles nouveautés tu as hâte de présenter sur YouTube, toi?
Alors, ça, j'ai pas trop réfléchi encore. En tout cas, ce que je suis très contente, c'est que, par exemple, on a enfin des notifications d'appel comme les autres notifications. On n'a plus l'appareil qui est complètement bloqué dès qu'on reçoit un appel et qu'on veut pas prendre, par exemple, et qu'il faut attendre, je sais pas, une minute qu'on retrouve notre écran. Parce que, comme je l'ai dit dans mon tuto, justement, où je présentais une nouveauté, c'est que notre iPhone, il nous sert à beaucoup de choses aujourd'hui, mais de moins en moins à téléphoner. Donc, j'ai pensé à toi aussi parce que je sais que tu n'aimes pas le téléphone non plus. Et du coup, le fait d'avoir cette notification d'appel qui apparaît en haut et qu'on peut rejeter comme ça d'un geste, d'un simple geste, je me suis dit waouh, merci Apple. Enfin, ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc que j'attendais depuis longtemps.
Ouais. Ouais, effectivement. Moi, je suis tellement, les gens de mon entourage sont tellement habitués que j'aime de pas me téléphoner en fait, que je reçois toutes sortes de notifications et que j'ai coupé toutes les notifications en fait. Mais je remarque un truc et je sais pas si quelqu'un pourra nous l'expliquer dans les notes de l'émission ou dans les commentaires sur Twitter, Facebook ou dans nos ou sur Internet. Quand je reçois un appel qui est effectivement plein écran, mon premier réflexe c'est d'appuyer sur le bouton rouge parce que c'est le premier que je vois. Alors que bien souvent, c'est pas lui que je voulais appuyer, là. C'était vraiment le bouton vert. Bref.
je suis aussi très
content d'avoir les notifications. Ben, en fait, je suis attiré toujours vers le bouton qui est le plus voyant et c'est sur lui que j'appuie. Et rouge, je sais pas si c'est la meilleure façon de mettre un bouton pour raccrocher. Bref, s'il y a des spécialistes en interface homme-machine, j'aimerais avoir.
Ouais, ça serait intéressant.
Alors, les premières nouveautés, les widgets. On a enfin des widgets qui vont compléter nos pages d'écran. Les widgets qu'on avait sur iPadOS, sur la gauche, pour ceux qui l'utilisaient ou ceux qui ont un iPad qui peuvent l'utiliser, vous allez les avoir maintenant aussi sur iPhone et vous allez pouvoir les mettre à travers les applications, en fait, sur les pages d'accueil.
Oui, c'est ça. En fait, un widget pourra vous donner l'information que vous avez choisie et ça prendra la place de 4 ou, alors qu'est-ce que j'ai vu aussi, 6, 2 apps. En fait, ça va être des petits carrés, des petits rectangles qui vont pouvoir être mis sur vos pages d'accueil entre les applications. Et ça aussi, ça va être intéressant. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a toujours besoin d'avoir sous la main. Ça nous évitera de... on gagnera un ou deux appuis, en fait, pour ouvrir l'application. Par contre, je suis un peu déçue que sur l'iPad, il reste sur le côté gauche. On n'a pas la même intégration que sur l'iPhone. On va pas pouvoir mettre sur toutes les apps comme sur l'iPhone. Ils vont rester quand même à gauche. Bon, c'est un peu dommage. Je sais pas trop pourquoi ce choix a été fait. Je sais pas.
On a des nouveautés au niveau des widgets, comme on le disait. On parlait aussi de plein écran. Là, encore une fois, Siri, elle aussi, va faire comme le téléphone, ne sera pas plein écran. Ça va juste être une pastille qui va afficher dans le bas. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est enfin une application de traduction. Je sais pas si toi, tu en utilises une sur tes appareils, mais moi, celle que j'utilise, c'est celle de Google. Et j'avais hâte que Apple fasse la sienne. Alors, je suis content pour plusieurs aspects. Alors, d'avoir l'application de traduction, je suis vraiment content de l'avoir, mais surtout d'avoir un traducteur intégré dans Safari sur iOS, sur iPadOS, puis sur macOS aussi,
ouais.
Parce qu'on va pouvoir enfin faire des traductions, chose qu'on ne pouvait pas. Pour ceux qui connaissent plus Chrome, on pouvait pas faire comme Chrome, traduire. Fallait passer par toutes sortes de manipulations. Et c'était devenu encore plus difficile dernièrement parce qu'ils avaient resserré la sécurité. Alors, d'avoir une app traduction dans des pages Internet, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que c'est quelque chose qui te manquait, toi, sur l'usage de iOS, iPadOS?
Alors, j'avoue que quand je lis des articles en anglais, bien souvent... Alors, tu sais qu'en France, on n'est pas trop doué pour les langues. Je parle pour moi du moins, mais en tout cas à l'école, on nous pousse pas vraiment à... On n'a pas des bonnes méthodes d'apprentissage. Donc je me forçais à lire et comprendre des articles en anglais. Là du coup, avec cette traduction, est-ce que ça va me rendre encore plus fainéante? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a plein d'articles, surtout des articles en anglais des États-Unis et tout ça que je vais être contente de lire et j'espère que la traduction fonctionnera bien. En tout cas, il y a 7 langues qui sont prises en compte, dont l'anglais et le français. Donc, on va être bien servi dès le départ. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre,
ouais, il y a plein de nouveautés. Oui.
Par contre, l'application Traduire. Donc là, je ne parle pas de Safari, mais de l'application qui sera disponible, ne sera disponible que sur l'iPhone. On n'aura pas sur l'iPad. Et ça, c'est nul. On l'aura dans Safari. On aura la traduction des pages web sur l'iPad, mais on n'aura pas l'application Traduire. Je me suis dit que c'est juste parce que c'est lié à un usage mobile et que du coup on va pas aller se balader dans la rue avec un iPad pour faire la traduction. Parce qu'on peut faire la traduction en direct apparemment avec l'application Traduire. Ouais. Bon, ça a creusé. Ça a creusé, mais c'est bien qu'Apple se penche là-dessus. Je sais pas quelle société ils ont racheté pour faire ça ou s'ils ont tout Ou ils sont repartis de zéro, je sais pas.
Ben, la bonne nouvelle, c'est que ça va marcher, semblerait, en mode offline. Fait que ça devrait être intéressant pour ceux qui sont en dehors de l'Europe et qui ont des forfaits de données limités. Nouveauté, alors je vais faire un mea culpa. Je me suis trompé sur une fonctionnalité que j'avais dit. Le Picture-in-Picture, PIP, vous savez, où on est capable de mettre des vidéos en superposition dans iPadOS. Je pense que je m'étais avancé dans une ancienne émission en disant qu'on peut le faire avec YouTube en mode premium, mais non, c'est pas vrai. Finalement, je m'étais trompé, je ne sais pas pourquoi. Mais une chance, iOS 14 et iPadOS 14 vont me donner raison finalement, on va pouvoir mettre des YouTube en superposition. Parce que maintenant, on a du picture-in-picture, du vidéo en superposition natif. Alors, pour tout ce qui est vidéo, vous allez pouvoir voir ça nativement. Moi, je trouve ça chouette. Je vois pas trop des usages, bon, à part quand on fait un FaceTime ou quand on est en mode visioconférence. Mais sur téléphone, je vois facilement les usages sur iPadOS, mais je les vois pas sur téléphone. Toi, est-ce que c'est une fonctionnalité que que t'attendais?
Sur l'iPhone, pas trop. Après, sur l'iPad, franchement, je m'en sers pas énormément. C'est vrai que moi, quand je suis concentré sur un truc, j'aime bien ne faire que ça. Je pense que je suis pas assez multitâche pour profiter de ça. Mais je pense que quand tu avais parlé de YouTube Premium, il me semble, on en avait parlé sur Twitter, il me semble que c'était une fonction qui était au départ pour les abonnés Premium et qu'après, ils l'avaient enlevé. Donc, c'est sûrement pour ça que Okay. Ouais, je pense que. Mais là, si c'est en natif, du coup, oui, logiquement, toutes les apps pourront être en PIP, quoi, en picture in picture, normalement.
On va revenir sur iPadOS un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent et qui nous écoutent iPadOS. Alors, on a Scribble qui permet d'écrire directement dans des champs de recherche avec le stylo. On a une façon maintenant de mieux dessiner des formes pour ceux qui sont des quiches comme moi en dessin. C'est assez intéressant où vous faites un cercle, vous faites un triangle, un carré et vous attendez un petit instant avec vos stylos à la fin de votre mouvement et automatiquement il va avoir une reconnaissance. On a une smart selection, c'est-à-dire que vous écrivez avec la main et automatiquement il va y avoir de la reconnaissance de caractère qui va se faire. Est-ce que c'est des trucs qui t'allument, toi, au niveau d'iPadOS?
Alors, pour tout ce qui est dans notes, ouais, je suis vraiment contente. Après, j'ai tenté d'écrire avec l'Apple Pencil et je pense qu'il y a un problème de... Enfin, pas un problème. Pour moi, il y a un problème de contact entre la pointe du pencil et l'écran. Tu sais, ça glisse un peu. Tu vois, t'as pas la même accroche qu'avec du papier et du coup, j'écris vraiment très, très mal sur l'iPad. Alors que j'écris déjà mal sur le papier, mais sur l'iPad, j'écris très très mal et j'ai pas forcément... En fait, clairement, mon écriture la plus rapide, c'est au clavier, au vrai clavier, hein, pas clavier virtuel, le vrai clavier physique. Donc je perds même pas de temps à essayer d'écrire avec le pencil, en fait, parce que les fois où j'ai essayé, c'était pas concluant, mais la vitesse d'écriture avec un clavier, c'est incomparable pour l'instant pour moi. Par contre, j'utilise beaucoup la dictée. Ça va encore plus vite que d'écrire sur un clavier. Et je suis contente du coup qu'on ait maintenant la dictée, on va avoir la dictée sans hors ligne. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, absolument. Un autre truc que tu utilises sûrement beaucoup, c'est Spotlight sur ton Mac. Es-tu contente de l'avoir sur iPadOS?
Ouais, faudra voir. Oui, bien sûr. Enfin, en fait, moi, je suis contente de toutes les nouveautés. Après, est-ce qu'elles vont m'être utiles? Ça, c'est une autre question, globalement, oui, de toute façon, c'est très bien que la recherche évolue et qu'on ait un vrai spotlight sur l'iPad, quoi. Ouais.
Ouais, absolument. Ils ont réussi à nous faire passer qu'une barre latérale dans les applications, c'était une nouveauté avec App Sidebar. Je ne sais pas si ça t'est pas du tout émoustillé comme moi ou...
Ouais, je me suis dit, c'est cool, c'est prouvé depuis des années sur Mac que c'est pratique, donc c'est bien que, c'est bien que ça arrive sur l'iPad, ouais.
À quelque part, c'est drôle parce que tu sais, je connaissais ton ressenti par rapport à iPadOS versus un Mac. Je sais que tu aimes beaucoup maintenant l'iPad. Tu l'utilises probablement plus que tu l'utilisais avant en volant celui de ta compagne. Mais en tous les cas, je remarque qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ont été pigées sur macOS cette année pour l'envoyer sur iPadOS. As-tu le même ressenti que tu as que moi?
Ouais, on sent quand même qu'il y a un rapprochement, ouais. Et puis en plus, avec la nouvelle interface de macOS Big Sur, on va Enfin, forcément, en fait, je pense que vraiment le but pour Apple, c'est que les gens utilisent n'importe quel produit sans se poser de questions, quoi. Sans se dire, ouais, ah oui, c'est vrai, c'est sur ça. Mac, faut cliquer là, faut faire ça, c'est compliqué. Je pense que, ouais, leur but, c'est qu'on passe de l'iPhone à l'iPad au Mac sans être perdu, sans se poser de questions et à faire ce qu'on a besoin de faire, quoi. Donc, ouais, il y a un rapprochement, c'est sûr.
Au niveau des nouveautés iOS 14, iPadOS 14, est-ce qu'il y en avait que j'ai pu oublier ou que tu penses qu'il aurait fallu dire dans Apple différemment?
Ouais, il y a l'application Message qui va vraiment ouais, s'améliorer. Alors ça, c'est vraiment du pur plaisir parce que Message, ce n'est pas du tout productif ou pas du tout lié au travail. C'est vraiment que du plaisir à échanger avec nos proches. Donc on va avoir pas mal de nouveautés, notamment pour les discussions en groupe, puisqu'on va pouvoir répondre à une seule personne précisément. On va pouvoir faire des réponses directes comme sur Messenger, en fait. Il y a pas mal de choses qu'on connaît sur Messenger déjà et qui arrivent sur Message. Donc sur l'iPhone, l'iPad et le Mac, là, même le Mac a les mêmes possibilités. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour Message? J'ai vu qu'il y avait pas... Enfin, j'avais tout noté, il y avait pas mal de choses en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Message? Personnaliser la photo des groupes des groupes de c'est discussion, ouais. Les réponses pratique, directes, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ça évolue dans le bon sens et il était temps parce qu'on était un peu... ouais, avec, je ne sais pas, je dirais 2 ans de retard là-dessus, sur les fonctionnalités. Et après...
Ouais. En même temps, c'est quand même une application de chat, tu sais, je veux dire, l'essentiel est là quand même. Là. Moi, ce que j'ai hâte d'avoir, c'est le paiement entre amis directement dans iMessage. Mais ça, c'est juste réservé aux États-Unis pour le moment. Ça, je suis impatient de l'avoir.
Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est que pour les États-Unis. Il y a aussi Plan qui évolue. Donc ça, moi, j'utilise tous les jours au temps ouais. où j'allais chez mes clients, où on pouvait encore se voir en vrai. Il y a Plan qui intègre, alors ça sera pas du tout au début pour tout le monde, parce que qui intègre les itinéraires en vélo. Donc ça, c'est peut-être aussi l'effet Covid-19 qui fait qu'Apple s'intéresse un peu au déplacement, on va dire, écologique, puisqu'il y aura aussi des itinéraires pour les voitures électriques avec les points de recharge, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais là encore, je pense qu'il faudra quand même, je dirais, une bonne année pour que ce soit disponible partout, quoi. Parce que tous les itinéraires ne sont pas forcément adaptables au départ.
J'ai bien aimé le fait qu'on puisse, dans un itinéraire de vélo, voir les parcours en fonction des dénivelés. C'est-à-dire que tu peux avoir un parcours avec beaucoup plus de dénivelé, il va te l'indiquer. Tu peux avoir même des parcours où il va falloir que tu prennes ton vélo dans les bras avec des escaliers.
Ouais.
Typiquement, si vous êtes à Paris, dans le coin de Montmartre, ben, ça se peut qu'il y ait des parcours où vous allez devoir mettre le vélo à votre épaule. Ça, j'ai aimé ça.
Est-ce que tu es content des nouveautés pour les AirPods? Toi qui...
Alors. Au niveau des AirPods, la fonctionnalité qui tue tout et qui enfin arrive, c'est le fait qu'on va pouvoir, lorsqu'on a les AirPods aux oreilles, switcher d'un appareil à un autre sans aller toujours dans le Bluetooth de l'appareil. Alors typiquement, vous êtes sur votre Mac, vous travaillez avec vos AirPods aux oreilles, vous quittez votre Mac, vous allez sur votre Apple Télé, boum, l'Apple Télé va connecter vos AirPods directement. Vous quittez votre Apple Télé, vous allez après ça sur votre iPad, boum, elle va le connecter sur votre iPad directement. Alors ça, je suis vraiment impatient de voir ça fonctionner, sachant que à la maison, mon Apple Télé, c'est les enfants qui l'utilisent. Alors pendant que je vais être sur mon Mac, est-ce que mes écouteurs vont se déconnecter et vont se connecter sur la télé pendant que je travaille, pendant que mes enfants l'utilisent ou quelqu'un d'autre? Ça, j'ai un petit peu une crainte par rapport à ça, mais le fait de pouvoir switcher d'un appareil à un autre automatiquement sans aller dans les réglages Bluetooth, ça, je suis vraiment, vraiment content. Il y a une nouveauté aussi, j'ai hâte de le voir, de l'essayer, où on va pouvoir, avec les AirPods, avoir un effet spatial du son qui fait que quand on a on avait déjà la stéréo, ça c'est correct, mais on n'avait pas la profondeur, c'est-à-dire avant-arrière, on n'avait pas aussi la hauteur au bas du Dolby Atmos, comme les techniciens dans ce domaine-là vont plus comprendre. On n'avait pas ces effets-là. Semble qu'on va les avoir avec les nouvelles générations de AirPods. Alors, c'est pas les AirPods 1, c'est vraiment les AirPods 2 qui ont certaines puces à l'intérieur et les AirPods Pro qui vont permettre ces fonctionnalités-là. Alors oui, au niveau du son, Je suis impatient de tester ça. Et j'espère que si ça cause des problèmes avec mon Apple TV, je vais être capable de le déconnecter pour pas que ça switch tout le temps sur mon Apple TV.
Ouais, je sais pas trop comment ça va fonctionner, cette connexion automatique, parce que si c'est juste lié à la distance et que dans la même pièce, t'as ton Mac, ton iPhone et ton Apple TV, c'est... Alors peut-être qu'il y aura... Ah, je sais pas. Je suis curieuse de savoir comment ça va marcher. Ouais, on verra. Il y avait aussi l'application localisée qui s'ouvre enfin aux appareils d'autres marques. Donc ça, c'est bien. Apple fait preuve d'ouverture. Donc l'application localisée ne vous servira plus uniquement à chercher vos appareils Apple, puisque des développeurs, des sociétés tierces pourront intégrer cette application dans leur développement et pourront donc... vous aurez toute la liste de vos matériels connectés, on va dire, qui intègrent cette fonctionnalité dans l'application localisée. Donc ça va être bien pour... ouais, tu sais, les petits... les titles, ça s'appelle? Ou je sais plus.
Les tuiles, là, les espèces de porte-clés que vous pouvez mettre à vos clés pour pas les perdre. Est-ce que c'est de l'ouverture vers les autres ou est-ce que c'est que Apple va sortir ses propres devices lui-même?
Non, en fait, ils ont mis à disposition un kit de développement pour les sociétés qui veulent intégrer ça. Donc, c'est open. Comme d'ailleurs l'application Maison qui devient... Attends, c'est HomeKit qui devient open source, je crois, et qui va permettre du coup d'intégrer d'autres fabricants, enfin... Il y a quand même une belle ouverture cette année au niveau des kits de développement. Donc, je trouve ça intéressant et on va pouvoir sortir un peu du cercle des produits Apple. Donc, c'est cool.
Oui, effectivement. On va faire un petit rapidement sur Home. C'est à peu près la même chose. Plus d'ouverture sur tout ce qui est domotique. Alors, les caméras, les prises, les lumières, il y a une belle ouverture là-dedans. C'est ce que Audrey mentionnait. On va pouvoir ajouter des appareils qui sont pas forcément HomeKit. Il y a un partenariat entre Google et Amazon pour justement avoir un standard de reconnaissance de produits plus domotiques. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça continue de s'ouvrir, en fait, cette plateforme-là.
Il y a un truc qui m'a un peu fait flipper, c'est la reconnaissance faciale des caméras. tu sais, les caméras que les gens mettent devant chez eux.
Ouais.
Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça y est, on y est là. On est dans le futur où les caméras reconnaissent les gens et ouvrent la porte ou n'ouvrent pas la porte. Ça me fait un peu flipper, je dois dire.
Oui, ça peut quand même être intéressant. Regarde. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante par rapport à ça, c'est que mon garçon va à l'école et revient à la maison. Alors, ça peut être super intéressant de savoir pour moi que mon garçon est arrivé à telle heure. Alors, d'avoir la reconnaissance faciale, je trouve ça cool. Maintenant, comment ça va être implémenté? Les données vont être sécurisées. Ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais moi, je vois certains usages par rapport à ça. Quand un livreur arrive, on n'ouvre pas la porte. Mais quand c'est une personne qu'on connaît, ben notre serrure connectée va automatiquement reconnaître que c'est mes parents, par exemple, ou que c'est mes enfants, puis va ouvrir la serrure de la porte. Alors ça, pour ça, moi, je trouve ça... quand même intéressant. Maintenant, je suis un peu sur mes gardes sur la façon dont on gère les données. On sait que c'est le cheval de bataille d'Apple. Habituellement, ils font bien ça. Mais ça reste que, oui, je peux être inquiet. Et comme tu dis, on y est. Ben, on y était depuis un bout déjà, mais on le savait pas. C'était pas encore dans le grand public, moi, d'après moi, je pense.
Ouais, la domotique, c'est quand même pas très, très étendu. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas du tout de domotique chez moi. C'est quelque chose que ma compagne ne veut pas. Donc, moi, j'avoue que j'ai... En fait, j'en sais rien, ça crée un... Bizarrement, je sais que ça amène beaucoup de confort et il y a plein de personnes qui ont des handicaps et tout qui... Enfin, c'est génial pour certaines fonctionnalités. Moi, je sais pas, ça me crée un sentiment de... Il faut de la sécurité, tu vois, par rapport, bien sûr, aux caméras connectées ou tout ça. Je sais pas encore. Après, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que ton exemple est très, très concret et très, très parlant. À voir, mais en tout cas, ouais, ça évolue bien. Il y a aussi les clés de voiture numériques. Ouais. Bah, ça aussi, c'est une nouveauté.
Pour prêter sa BMW, hein, t'as remarqué, c'est pour juste les BMW.
Il faut la voiture qui va avec, comme d'habitude. Malheureusement, je ne pourrais pas tester. Mais clé numérique, l'idée, c'est que vous puissiez ouvrir votre voiture et démarrer votre voiture avec votre iPhone ou votre Apple Watch. Et donc, on se passe complètement de clé. On va avoir beaucoup de choses dans nos appareils. Hein.
Oui, ben ça va être le centre de l'univers. Mais toi, un truc au niveau des automobiles qui doit te plaire, c'est que dans Map, on va pouvoir avoir des itinéraires basés sur les voitures électriques pour pouvoir trouver le meilleur endroit pour se recharger, pour faire des trajets avec le meilleur endroit
pour
se recharger.
Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. J'en ai parlé tout à l'heure, oui.
Oh, excuse-moi, désolé.
Non, mais alors, attends, il faut que j'explique à nos auditeurs qu'il est très tôt pour toi.
Ouais. Pas très tôt.
Très tôt.
Il est 10 heures du matin.
Ouais.
Mais oui, tu l'as expliqué effectivement dans le plan, désolé.
Mais il vaut mieux le dire deux fois qu'une. En tout cas, c'est cool que la voiture numérique se développe et puis la voiture numérique, la voiture électrique se développe et puis qu'Apple prend ça en charge, ouais. Au niveau d'iPadOS et iOS, il y a sûrement plein de trucs qu'on n'a pas dit parce qu'en fait, tout n'est pas encore été dévoilé vraiment dans le détail. On en apprend tous les jours.
Effectivement, c'est ça. Ben, y a plusieurs kits de développement qui sont arrivés sur iPadOS qui ont continué par rapport à la reconnaissance. Parce que maintenant, le nouveau iOS, en fait, le nouvel iPad Pro, un détecteur de 3D dans les pièces. Alors évidemment, ils ont mis à jour ces fonctionnalités-là. C'est des usages qu'on va plus voir dans 2-3 versions, je dirais, où on va comprendre pourquoi ils ont mis ça en place. Non, effectivement, dans iPadOS, moi, ça faisait le tour. Il n'y avait rien qui me transcendait dans les nouveautés d'iPadOS, à part la reconnaissance de caractère quand on écrit. On serait prêt pour passer par WatchOS, Audrey?
Oui, allons-y.
Alors, tu vas y aller pour cette section-là parce que toi, WatchOS, t'es une maniaque en ce moment et t'arrêtes pas d'utiliser ta montre et de me battre dans certains défis. Alors, c'était quoi les nouveautés dans WatchOS?
Alors, WatchOS 7, y aura des nouveaux cadrans et surtout ça devient un peu plus flexible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plus de complications, on va pouvoir surtout avoir plusieurs complications pour une même application. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, sur un seul écran, on va avoir plein d'infos liées à une seule app si on en a envie. Et puis surtout, on va pouvoir partager nos cadrans. Et ça, c'est trop cool. On va pouvoir, tiens, je t'envoie mon cadran. Ça va être bien. C'est tout con, mais je trouve ça vraiment bien. Il y aura des nouvelles complications aussi liées, tu vois, genre par exemple, déclencher l'appareil photo de l'iPhone. On va pouvoir le mettre directement dans une complication. Donc ça, c'est plutôt cool. On a des fonctionnalités de sommeil. Alors là, bon, j'attends de voir de ce que ça donne par rapport au suivi de sommeil. Est-ce qu'on va vraiment avoir une app qui déchire et qui prend en compte les cycles de sommeil et tout? Voilà, on verra. Ça pose aussi un problème par rapport à l'autonomie, même si Apple dit que une heure avant d'aller nous coucher, on aura, si la batterie est trop faible, on aura un petit message pour nous dire de recharger la montre avant d'aller se coucher. On va voir ce que ça donne.
Ça m'avait l'air, comme on dit chez nous, un peu rabouté, cette fonctionnalité-là, d'analyse de sommeil. Tu vois que c'est le truc qu'ils ont mis, mais qu'ils voulaient pas mettre au départ, alors ils ont été obligés de faire une espèce de patch pour dire, ouais, une heure avant, on va te dire de recharger ta montre pour que tu puisses analyser le sommeil. Mais de toute façon, demain matin, il va falloir que tu recharges ta montre quand même. Et ça m'a l'air bric-à-brac comme nouveauté, ça.
Après, peut-être que c'est lié, c'est-à-dire que maintenant, l'Apple Watch va intégrer la recharge, l'optimisation de la recharge. Alors, est-ce que dans les périodes où la montre sait que, par exemple, on est au travail et qu'on n'a pas besoin d'utiliser notre montre, est-ce qu'elle va se mettre en mode économie d'énergie? Tu vois, il pourrait y avoir une intelligence de ce côté-là par rapport à nos habitudes, parce que l'Apple Watch, c'est clairement, elle se base vachement sur nos habitudes. Même on disait tout à l'heure pour les défis mensuels, c'est basé sur ce que vous avez fait le mois précédent, enfin... Il y a vraiment une grande observation de nos habitudes et peut-être que l'optimisation de la batterie permettra en fait qu'elle consomme moins. Après, c'est sûr qu'aller recharger sa montre une heure avant d'aller se coucher, je trouve pas ça hyper pratique. Faudra tester. De toute façon, bien sûr, on vous redira ce que ça donne. Alors, une fonctionnalité que je trouve intéressante, même si ça va... Ma compagne, elle m'a dit « Non, mais bientôt, ils vont nous dire à quelle heure faut manger. » Donc, tu vois, clairement, c'est pas une fonctionnalité qui paraît évidente pour tout le monde, mais l'Apple Watch va détecter quand vous vous lavez les mains. Donc, merci, Covid. Et donc, va mettre un petit chrono de 20 secondes en route pour vous pouvoir vous pousser à vous laver les mains un peu plus longtemps et à mieux vous laver les mains du coup. Il y a un petit effet avec des bulles et tout qui est super, super mignon. Et le truc super intéressant, je trouve, pour les gens un peu tête en l'air, c'est l'Apple Watch, quand tu vas rentrer chez toi, va t'envoyer une petite notification pour te dire de te laver les mains. Alors, c'est bien, moi, je trouve. Hein, ça fait un peu comme si on avait notre mère sur le dos qui nous disait « lave-toi les mains avant de manger ». Mais moi, je le prends pas comme ça. Je le prends juste comme quelqu'un comme moi qui, je sais pas, qui a toujours la tête ailleurs, qui pense pas forcément à ce qu'elle est en train de faire au moment où elle le fait. Je rentre chez moi, ma montre me dit « lavez-vous les mains ». Je trouve ça cool, quoi. Enfin, je suis pas du tout contre ces principes-là. Puis de toute façon, forcément, ça sera désactivable. Puisque sur l'Apple Watch, tout est paramétrable, on peut vraiment tout gérer comme il faut.
Ouais, elle devient une vraie assistante. Puis effectivement, comme tu dis, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez désactiver ou retirer carrément cette fonctionnalité-là. Dis-moi, toi qui aimes les nouveaux trophées avec les nouvelles activités, qu'est-ce que tu penses des nouveaux exercices qui vont être disponibles?
Ouais, je suis pas au niveau encore. Il y a quatre nouveaux exercices, dont deux, je crois, liés à la danse, et puis à des renforcements musculaires et tout. Enfin, moi, non, je suis pas. Moi, je marche pour l'instant. Qu'est-ce que je fais? Je nage un petit peu. Je fais un peu de yoga. Ouais. Donc, ouais. C'est tout. Mais franchement, clairement, je suis pas du tout sportive. C'est juste que. Mon but, c'est juste d'avoir une activité suffisante quotidiennement. Comme tu dis, c'est la régularité, je pense, qui paye au final tout au long de notre vie. L'Apple Watch est bien aussi pour ça. C'est pas une montre pour sportif, quoi. C'est une montre pour tous les gens qui veulent avoir un petit coup de rappel de « Allez, faut se lever, il faut aller bouger. Vous pouvez encore y arriver. » Voilà.
Mais tu vois ici, l'exercice en Amérique du Nord, la danse en fait partie. On a une catégorie de danse qu'on appelle « danse sociale ». Ou c'est des sets carrés, comme on appelle. Là. Je ne sais pas si vous avez vu des films américains où vous voyez des groupes, des grands groupes danser tous ensemble en carré. Pour certaines personnes, c'est leur exercice. Il y a même des cours de danse sociale qui se donnent. Alors, pour certaines personnes, notamment tout ce qui est country, western, on c'est plus un exercice. Effectivement, je trouve ça judicieux de l'avoir ajouté. Ça fait juste englober encore plus pour au niveau des exercices. Moi, je trouve ça, en fait, c'est juste des ajouts, hein. Fait qu'il faut comprendre que si vous aimez pas, vous utilisez pas ou vous déconnectez. L'affaire que j'ai hâte de voir, c'est la traduction directement à la montre. On en parlait tantôt, mais au niveau de WatchOS, il va y avoir une traduction. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se produire. Est-ce que c'est en parlant, ça va traduire directement ton interlocuteur? Je suis impatient de voir ça au niveau des traductions dans les nouveaux OS.
Il y a aussi l'intégration de l'application raccourci sur l'Apple Watch. Donc, tu vas pouvoir lancer des raccourcis depuis ta montre. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être super contents de cette nouveauté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Il y avait le plan en vélo aussi. Donc toujours pareil, si tu fais du vélo avec l'Apple Watch, elle pourra te dire tourner à gauche ou tourner à droite, comme elle le fait déjà un peu avec plan quand on conduit.
Ouais.
J'ai découvert ça l'autre jour, je trouvais ça sympa. Tu sais, elle bip trois fois pour tourner à gauche, quand tu dois tourner à gauche. Je trouvais ça intéressant parce qu'au final, ça permet de moins avoir les yeux sur l'iPhone. Et de plus se fier au tapotement qu'on ressent ou au bruit qu'on entend, qui nous indique un changement de direction. Je trouvais ça pas mal. En fait, au début, je me suis dit, oh non, elle va pas répliquer plan, tu vois, bêtement plan. Et en fait, non, c'est encore un outil complémentaire et ils sont bons chez Apple quand même.
Ben, tu vois, au niveau de la Watch, ça peut être super intéressant quand on est en ville, moi, je trouve, où tu as besoin, en ville ou en vélo, où tu as besoin de jamais regarder ton écran, en fait, ou même en moto, pour ceux qui ont des motos qui vibrent pas trop, hein, en passant, parce que c'est vraiment une vibration sur votre montre qui vous indique où vous pour conduire. Fait que moi, j'ai trouvé ça super ingénieux, hein, quand vous êtes, en fait, faut partir l'itinéraire à partir de votre téléphone. Ah non, c'est vrai, vous pouvez le faire aussi directement sur votre watch et elle va vous indiquer au moment de tourner. C'est pratique dans des villes ou des endroits touristiques où tu veux peut-être pas sortir ton téléphone parce que t'aurais peut-être peur de te le faire chourer ou de manquer des trucs. Moi, je trouve ça très, très judicieux. Oui, c'est malin qu'ils aient mis ça au niveau de WatchOS. J'ai hâte aussi d'essayer, effectivement.
Ouais.
On a fait le tour, hein, je pense, pour WatchOS.
On a fait le tour des grandes nouveautés. Et puis, comme je le disais, ouais. Ben, y a... Là, je ne sais pas si tu vois sur les sites d'actu, ben, sur Mac Génération, quoi, tous les jours, il y a des nouvelles... des nouveaux petits détails dont Apple n'a pas parlé et qu'on attendait, par exemple, sur l'iPhone ou l'iPad, tu vas pouvoir enfin mettre un titre à une photo. C'est con, mais c'est vrai que oui. Moi, j'ai plein de clients qui me demandent, mais sur Mac, je peux rajouter un titre à mon image dans l'application photo, et sur l'iPhone ou l'iPad, je ne peux pas le faire. Donc maintenant, on pourra le faire, et puis ça sera synchronisé, bien sûr, avec la Photothèque iCloud. Donc c'est bien, on sent qu'iPadOS... iOS et iPadOS gagnent un peu d'autonomie encore. Enfin, c'est bien. Ça va dans le bon sens.
Oui, effectivement. On parle de MacG. Tu as reçu ta carte comme rédactrice
maintenant
de MacG. Ça, tu ne l'as pas dit.
Ben non, parce que ça fait... Non, c'est vrai que ça fait à peu près un an que j'écris des articles pour MacG. Et le jour, j'ai ouvert le courrier et puis je reçois cette petite plaque métallique... Donc, le rédacteur en chef m'a expliqué qu'en fait, ils avaient fait un Kickstarter pour récolter des fonds. Et il y avait, je crois que c'était les gens qui avaient un abonnement à vie qui recevaient cette plaque. Et donc là, comme il en restait, ils en ont fait pour l'équipe avec le nom et puis l'intitulé du poste. Donc, j'ai ma petite plaque. Ça fait très... je sais pas, je trouvais ça... J'étais trop fière, en fait. C'est tout con, mais...
T'es dans l'élite, maintenant, de Mac Génération.
Oh, l'élite, non. non, j'essaye d'écrire plus parce que c'est vrai qu'ils publient beaucoup, hein, franchement. Moi, je suis étonnée du turnover qu'ils ont. C'est impressionnant. Moi, je dois écrire un article par semaine à peu près. Donc, c'est vraiment bien. C'est une bonne équipe. Ils sont vraiment sympas. Il y a pas mal de gens qui râlaient que des articles étaient en accès payant. Mais en même temps, il faut bien payer les gens qui écrivent, quoi. Après...
Je suis abonné à MacG pour l'année parce que justement, il y a plein d'articles puis qui font de l'historique de la marque. Mm. Alors, j'aime beaucoup ça, cet aspect-là. Puis, ils se sont essayés dans le domaine du podcast. Il faudrait leur parler pour leur dire que nous aussi, on en fait du podcast. On pourrait peut-être avoir un partenariat avec MacG.
Pourquoi pas? Il va falloir qu'on voit ça.
La plateforme qu'on attendait parce qu'on savait qu'il allait avoir une grosse, grosse, grosse nouveauté, ben, c'est macOS. Ouais. Audrey, toi, moi, je ne l'ai pas connu, la transition des PowerPC versus des processeurs d'Apple à l'époque à Intel avec Catalina et ainsi de suite parce que j'étais sur Windows à l'époque de système d'exploitation ordinateur. J'ai été sur Mac avant, j'ai été sur Mac après Intel, mais je n'ai pas vécu la transition. Toi, tu l'as vécu?
Alors oui, ouais, je l'ai vécu quand on est passé des PowerPC à Intel. En plus, moi, j'étais vraiment... Attends, à l'époque, je devais être graphiste, donc j'étais utilisatrice. Comme là, ils l'ont dit, il y a déjà les principaux acteurs, donc Office et Adobe, qui sont déjà prêts. Donc quand tu travailles, en général, c'est les outils que tu utilises. Moi, en tant qu'infographiste... J'utilisais la suite Adobe, donc c'était déjà prêt. J'ai pas ressenti trop de problèmes, mais je pense pas être le bon exemple pour ce niveau-là. Mais en tout cas, Apple, ils gèrent, quoi. C'est bon, ils savent faire. Ils l'ont déjà fait deux fois. Là, ça sera la troisième fois. Après, ce qu'il faut savoir, donc, parce qu'en fait, là, tu parles d'Apple qui va faire ses propres processeurs.
Oui, c'est ça. Ben, c'est,
ouais, parce qu'on, que c'est...
On vulgarise, il faut expliquer aux gens un peu... Je pense que t'es la meilleure placée pour expliquer ça. Mmh.
Oui, parce qu'on parlait de... Je pensais qu'on allait parler de macOS 11, donc la nouvelle version de macOS, qui n'est pas liée au changement de processeur, en fait. Hein. Tout le monde pourra avoir
oui, c'est vrai.
macOS 11 sur les Macs de... Enfin, il y a toute une série de Macs compatibles. Hein. Ça remonte quand même à 5 ans, je crois. Donc, en fait, il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que... Apple, comme tous les ans, là en octobre, va sortir son nouveau système qui s'appelle macOS Big Sur et qui est la version 11. Donc les macOS 10, c'est fini. On passe à un nouveau cap. Et Apple, fin d'année, va commercialiser son propre Mac, son premier Mac avec un processeur maison. Processeur j'ai l'habitude de dire Intel, Apple Silicon du coup, je crois que c'est comme ça qu'ils vont les appeler. Ça n'empêche que... il y aura une version de macOS 11 pour les gens qui ont des Mac Intel, et puis il y aura une version de macOS 11 pour les gens qui auront un Mac avec processeur Apple Silicon, ça sera exactement la même chose. Hein. Ça sera, je pense qu'au niveau de l'usage, il n'y aura pas de différence, hormis, on espère, des meilleures performances. Mais globalement, ça ne va pas changer grand-chose pour ceux qui ont un Mac actuellement, en sachant que même quand, d'ici plusieurs années, Apple continuera à sortir une version Intel de macOS, donc on aura quand même si vous venez d'acheter un Mac Intel, il ne sera pas bon à acheter dans un an, il ne faut pas du tout s'inquiéter, il y aura quand même un suivi sur plusieurs années. Et Apple va même sortir des nouveaux Mac Intel cette année et l'année prochaine, donc ça va prendre à peu près, ils ont dit, 2 ans pour migrer tout ça et puis pour être en 100% Apple Silicon, donc ça va se faire vraiment très doucement, quoi.
Alors, avant de parler des nouveautés de macOS, si je suis un nouveau consommateur et que j'entends qu'il va y avoir un changement de processeur, j'ai pas à m'inquiéter d'après ce que j'entends de tes explications. Mais est-ce que si j'ai besoin d'un Mac aujourd'hui, aujourd'hui, d'ici la fin de l'année avec les nouveaux processeurs à Apple, qu'est-ce que tu me conseillerais, toi, d'acheter, d'attendre, d'acheter tout de suite la nouvelle génération de processeurs, d'acheter un Intel? Si j'étais un de tes clients, tu conseillerais quoi?
Moi, je conseillerais ce qu'on connaît et ce qui est fiable. C'est-à-dire, je conseillerais un MacBook Pro ou un MacBook Air Intel, parce que c'est des modèles qui sont testés, remis à jour depuis des années, c'est hyper fiable. On va pas reparler des problèmes de clavier, mais ça y est, on est passé à autre chose. Donc aujourd'hui, je veux dire, si on achète un MacBook Pro ou un MacBook Air ou un iMac, enfin peu importe, on sait qu'on achète pour 5 ou 6 ans, voire plus. Et en plus, on aura les mises à jour pendant plusieurs années. Donc moi, je conseillerais plutôt d'acheter du Intel en 2020. Peut-être que les Mac avec un processeur Apple Silicon seront aussi peut-être plus chers. On ne sait pas du tout quel type de Mac ils vont proposer au début. Est-ce que ça sera les mêmes, mais juste avec un processeur différent? On ne sait pas. Donc clairement, pour l'instant, je me dirais, basons-nous sur ce qu'il y a de plus fiable, surtout si c'est pour une utilisation quotidienne et puis voire professionnelle, quoi.
Ouais. Restons prudents donc en 2020 sur l'achat des nouveautés avec les processeurs de Mac d'Apple, c'est ça?
Ouais, moi j'ai envie de dire, de toute façon, si vous avez besoin d'un Mac maintenant, achetez un Mac maintenant. C'est pas pour ça que dans un an il fonctionnera plus ou qu'il sera désuet ou voilà, il y a aucun souci à se faire. Moi je me suis dit, je vais peut-être pousser mon MacBook Pro un an ou deux supplémentaires et voir ce que ça va donner, mais parce que je suis dans le métier, sinon je sais pas quand t'as besoin d'acheter une machine à laver, tu même si dans un an il y en aurait une mieux qui sort, c'est quand on a besoin maintenant, t'en as besoin maintenant, quoi, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Et puis les Macs d'aujourd'hui sont quand même très aboutis, donc vous serez pas déçus dans tous les cas. Après on verra au niveau des performances, mais clairement non, je sais pas, t'en penses quoi?
Pendant la conférence à la fin, Tim Cook a rassuré tout le monde en disant que ça allait être une transition en douceur, qu'ils avaient même encore des Macs dans les tuyaux, pour reprendre son expression, avec des processeurs Intel. Alors, le conseil d'Audrey est vraiment judicieux. Si vous pensiez changer pour le principe de vouloir changer, moi, la recommandation, ce serait d'attendre. S'il fait très bien votre Mac, gardez-le. Si vous en avez absolument besoin d'un, je serais comme Audrey avec du Intel. Et pour le moment, en 2020, je serais encore acheter du Intel ou conserver du Intel s'il fait encore. C'est pas le moment trop de changer. Puis si je me mets avec du recul en technologie dans mon métier, je conseille rarement à des clients qui ont besoin d'appareils ou de technologies d'aller dans la nouveauté tout de suite. Je m'explique. En technologie, bien souvent, quand on est dans les débuts, on essuie les plâtres. Alors, on essuie les plâtres avec des erreurs de la marque, on essuie les plâtres avec des choses pas tout à fait abouties. Alors, faut faire attention. Maintenant, si vous êtes un geek, que vous aimez les nouveautés, tout ça, c'est pas ce conseil-là que je vous donnerais, c'est sûr. Mais pour des gens qu'on a besoin, comme une machine à laver, l'exemple d'Audrey est marquant, vous avez besoin pour faire un travail. Alors effectivement, je vous dirais, conservez un tel pour cette année en 2020. On va peut-être se raviser avec le podcast dans un an, on verra. Mais pour le moment, le conseil, ce serait continuer avec un tel. De toute façon, Apple nous garantit que ça va être en douceur. La transition des ordinateurs va se faire sur 2 ans, mais le système d'exploitation va durer beaucoup plus que 2 ans. Alors, vous avez plusieurs années devant vous, même si vous achetez demain un ordinateur avec Intel, effectivement.
Oui, et puis comme tu me posais la question au départ, quand on a changé de processeur entre PowerPC, Motorola et Intel, si tu ne le savais pas, si tu n'allais pas voir dans les réglages du Mac, tu ne savais pas que qu'il y avait un autre processeur. C'est vraiment transparent comme changement pour l'utilisateur. Donc, si en plus il y a. Alors, tu seras peut-être plus calé que moi, mais ils ont annoncé un Rosetta 2, donc pour aider la transition, justement, faire tourner des applications qui sont développées pour Intel, les faire tourner sur Apple Silicon. Donc, je pense qu'Apple, ils vont pas se casser la gueule là-dessus, ils savent faire. Enfin, ouais, moi je m'inquiète pas du tout. Et j'espère que les performances sont au rendez-vous, même si aujourd'hui. Moi, j'utilise un Mac qui a déjà 3 ans et je le trouve pas lent, tu vois. Enfin, on est à un niveau quand même d'exécution aujourd'hui qui fait que, hormis d'avoir des besoins très spécifiques et très, très, très volumineux, les Macs sont pas du tout à la ramasse, quoi.
Non, vraiment pas. Non, ton conseil est très, très judicieux pour l'achat. Je voulais en parler avant même de parler des nouveautés de macOS parce que ça peut se questionner maintenant. Est-ce que j'attends? Alors effectivement, si vous en avez besoin, vous attendez pas, vous achetez Intel. Et puis si vous en avez vraiment pas besoin, puis que vous êtes un observateur de la tech, ben attendez aussi là, pour le moment. À moins que vous êtes développeur, et là, auquel cas, si vous êtes un développeur pour d'applications Mac, iPad et ainsi de suite, ben là, vous pouvez commencer à penser à changer ou prendre le kit de développement qui est disponible.
Un Mac Mini, oui. Ouais, c'est cool qu'ils aient prévu ça. Ça, tu vois, je crois qu'ils l'avaient pas fait.
Oui, il l'avait fait à l'époque. Il l'avait fait à l'époque. C'était des Mac, je ne me rappelle plus c'était quelle génération. C'était des tours qui étaient excessivement vides à l'intérieur, qui coûtaient 500$, mais quand c'était un prêt, et à la fin du prêt, ils te remettaient un 500$ de bon d'achat sur un ordinateur chez Apple. Alors, ils avaient fait aussi cette transition-là de la même manière. Mais là, j'ai pas compris que tu allais avoir un bon d'achat puis qu'il fallait renvoyer les Mac Mini avec les processeurs silicone. Je pense que tu l'achètes et puis tu développes dessus puis tu le gardes. Mm-hmm. À l'époque, c'était l'inverse. C'était un prêt de 500$. Ils ne te redonnaient pas ton 500$ après, mais ils te donnaient de l'argent pour dépenser chez Apple.
Ouais, après, un Mac Mini pour faire du développement, c'est bien comme machine. Hein. Enfin...
Oui. Ouais. Oui.
Bon, alors, on parle du temps attendu.
Allons-y de celui qui se rapproche de plus en plus d'iPad pour certains. Moi, je pense qu'il se rapproche de plus en plus d'une interface un peu plus intelligente 2020. Qu'est-ce que tu en penses au niveau, toi, de macOS le 11?
Alors moi, je suis vraiment très, très, très heureuse. Juste avant le keynote, tu sais, j'ai écrit un article sur mon blog sur ce que j'attendais du prochain macOS. Et ça y est, mon vœu a été exaucé parce que je disais qu'en fait, le Mac était quand même... Enfin, l'interface, hein, attention, on ne parle pas de matériel, on parle juste d'interface et d'utilisation, était quand même vieillot. Tu vois, là, quand tu utilises un iPad et qu'après tu passes sur ton Mac, tu as l'impression qu'il y a 5 ans d'écart au niveau de l'interface et de l'utilisation. Ouais. Dans le sens où le centre de contrôle sur l'iPad ou sur l'iPhone, c'est hyper pratique. Et sur Mac, on a toujours nos petits menus là en haut qui sont vieillots, c'est écrit petit. Les gens, moi je vois bien mes clients, pour eux c'est du. Enfin, ils se rendent pas compte qu'il y a tellement de possibilités avec ces petits menus en haut à droite de l'écran parce que c'est trop petit, c'est pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un vrai coup de jeune. Et je suis vraiment très très contente que Apple ait proposé une nouvelle interface avec macOS 11. Et franchement, je trouve ça super beau. Enfin. Je suis contente. Voilà. Ils ont fait une heureuse parce que j'attendais ça depuis longtemps que, comme quand on était passé d'interface de macOS 9 à macOS 10, il y avait eu ça s'appelait interface Aqua à l'époque et c'était, c'était dans l'air du temps, c'était frais, c'était bien. Et là, voilà, on va avoir un petit coup de souffle, coup de neuf là-dessus et c'est cool pour nos Macs. Ouais.
Ouais, moi, effectivement, je suis un peu comme toi. Dans le fond, pour vrai, avec iPadOS, les iPad Pro, je ne conseillais plus macOS à des nouvelles personnes dans l'écosystème Apple. Parce que si tu comparais certaines fonctionnalités d'iPad, je les trouvais beaucoup plus intuitives. Tu sais, ne serait-ce que d'aller jouer dans le Bluetooth, d'aller jouer dans certains paramètres, comme tu dis. Je trouvais ça beaucoup plus intuitif sur iPad et je recommandais pas macOS pour des gens qui rentrent dans l'écosystème d'Apple. Depuis plusieurs versions, en fait, je le recommandais plus. Par contre, je le recommande pour d'autres trucs. Là, pour le code, je recommande en premier un Mac, en second un Chromebook maintenant et après en Windows pour plusieurs usages, pas tous. râlez pas tout le monde. Pour tous. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis content de la nouvelle interface. Plus jeune, enfin, on abandonne le gris. Hein? Même si on avait un mode nuit, le gris était quand même prédominant et tristouné dans macOS. Là, ça devient plus uniforme, transparent.
Les ombres ont l'air moins dures aussi.
Alors, là, gros débat. Les ombres ont l'air moins dures, effectivement, dans l'interface. Mais par contre, dans les icônes, je tiens à soulever le fait que les icônes de iMessage, de FaceTime sont totalement affreuses.
Ouais.
Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces icônes-là. Pour le reste, oui, je suis d'accord, mais dans certaines icônes dans macOS, je trouve ça délirant.
En plus, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher bien loin parce qu'ils nous auraient remis l'icône de message de l'iPhone ou de l'iPad. C'était très bien. Pareil pour FaceTime ou pour... Pourquoi ces icônes vertes, elles sont si moches? Mail aussi, en fait, c'est l'ombre hein, qui fait vraiment un peu dégueu. Il y a une espèce d'ombre portée, hein, vous mettrez les images dans les notes de l'émission, mais c'est en fait sous la bulle de l'icône de message, il y a une espèce d'ombre portée, une transparence en même temps. Enfin ouais, clairement, c'est dégueu. Il y a eu un débat là-dessus sur Twitter. C'est vrai que on ne sait pas trop. Après, je crois que c'est déjà arrivé une année où ils nous avaient mis des icônes comme ça, et puis ils ont changé au dernier moment. Donc moi, je m'attends vraiment que dans les prochaines bêtas, ça change. Je pense qu'ils vont pas laisser ça comme ça.
Ouais, j'espère. Mais en même temps, bon, c'est très superficiel, là.
C'est des trucs qu'on a sous les yeux tout le temps, ouais. En même temps.
On vient qu'à s'y habituer, par contre, des fois. mais au niveau des nouveautés, des fonctionnalités, qu'est-ce que tu as hâte d'essayer, toi, en termes de nouvelles choses?
Alors, c'est vrai qu'ils ont quand même tout misé sur la nouvelle interface. On n'a pas d'autres grandes nouveautés, hormis une nouvelle version de Safari et de messages, qui vont reprendre en fait les nouveautés dont on a parlé, qui seront disponibles sur iPhone, iPad. Safari s'améliore au niveau sécurité, hein. Il y a vraiment on va avoir un contrôle, en fait, quand on visite un site. D'après ce que j'ai compris, quand on visite un site, on aura un petit rapport qui nous dira quels sont les trackers qui sont installés sur le site, qu'est-ce que ça indique, ou quelles sont peut-être les données qu'ils conservent. J'ai pas regardé encore dans le détail, mais en tout cas, Safari va devenir un navigateur encore plus sécurisé et aussi s'améliorer au niveau des mots de passe. Je crois que Apple augmente encore le niveau de sécurité dans cette version de Safari.
Ouais, au niveau des trackers, moi j'ai installé Safari. Si vous avez un macOS présentement, moi je vous recommande pas d'aller sur la nouvelle version de macOS, mais en bêta même, qu'on va pouvoir avoir bientôt. Mais vous pouvez quand même essayer Safari Technology Preview. Qu'est-ce que c'est Safari Technology Preview? C'est la nouvelle version de Safari sur un vieux Mac, en fait sur un Mac actuel. Alors vous pouvez tester Safari, toutes les nouveautés de Safari, sans forcément passer tout le système, tout macOS à macOS 11. Moi je l'ai installé, effectivement, oui, t'as un rapport sur les trackers, t'as un rapport de consommation sur tout ce qui est petit élément dans les pages qui va faire des suivis sans que vous le sachiez. Alors typiquement, depuis un bon moment, on bloque les publicités, on peut bloquer les publicités, il y a des fonctionnalités pour le faire. Mais il y a aussi des petits trackers cachés qui indiquent aux régies publicitaires ce que vous faites, votre comportement, ce que vous achetez, ainsi de suite. Alors, vous allez pouvoir les bloquer. Ça vous donne un rapport sur ça. Ça vous donne quel est le tracker le plus utilisé. Ça vous donne toutes sortes de petits rapports intéressants sur Safari, en fait. Ça, c'est vraiment bienvenu. Moi, j'ai noté la nouvelle page d'accueil dans Safari. On va pouvoir personnaliser sa page d'accueil en mettant ses favoris, des rapports, sa liste de lecture. Vous allez pouvoir mettre des actualités aussi. Vous allez pouvoir mettre dans la page d'accueil des suggestions de Siri. tous vos onglets que vous avez ouverts sur votre iPad, sur votre iPhone, vous allez pouvoir les avoir directement sur cette page d'accueil-là. Vous allez pouvoir personnaliser le background de cette page d'accueil-là. Pour le moment, il y a quelques papiers peints, mais vous pouvez glisser des photos dessus, d'une photo d'un beau paysage que vous auriez pris ou un truc comme ça. Alors, on peut personnaliser la page d'accueil. Il y a un meilleur contrôle, ou en tout cas une visualisation des contrôles des choses au niveau de la sécurité. Et ce que j'attends depuis longtemps qu'on n'avait pas sur Chrome, effectivement, la traduction intégrée, qui n'est pas encore sortie dans aucune des bêtas sur Safari. On va pouvoir traduire, on en a parlé au niveau de iOS, iPadOS, mais ça va être aussi sur macOS, les pages directement. Et ça, pour vrai, c'était la seule fonctionnalité que je regrettais sur Safari, vraiment. Et là, on va pouvoir le faire. Alors, Safari, c'est un gros morceau. J'ai fait quelques tests parce que, tu sais, je suis prof du web, alors j'aime bien comparer les navigateurs. Et j'ai fait quelques tests de performance. Et c'est assez hallucinant, la performance de Safari Technology Preview. C'est un nouveau moteur de rendu HTML. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le moteur en arrière qui est amélioré, optimisé. Ce qu'on me dit sur Twitter, c'est que ils auraient une technologie d'antémémoire, de caching, où ils cachent les sites web sur du cloud en ce moment. Alors, c'est plus vite. Honnêtement, c'est plus vite. Selon tous les benchmarks que j'ai fait, les tests de contrôle indépendant que j'ai fait, dans la majorité des cas, il est vraiment supérieur à Chrome. En plus de ça, il va avoir une amélioration au niveau de la batterie, en fait, l'autonomie de votre batterie pour tout ce qui est MacBook, MacBook Pro, MacBook Air. Vous allez avoir une meilleure autonomie en utilisant Safari. Bref, Safari, c'est un gros morceau en termes de nouvelles fonctionnalités. Je suis vraiment content de le voir puis de le tester en ce moment. Et c'est ça. Il s'adapte dans l'air du temps. Alors, d'autres trucs qui sont bien dans Safari, c'est que vous allez pouvoir voir enfin des icônes au niveau de vos onglets. Alors, vous allez pouvoir mieux distinguer vos onglets. Vous allez pouvoir aussi fermer des onglets en groupe, ce qu'on pouvait pas faire. Vraiment, il y a plein de fonctionnalités qui sont très, très contemporaines dans le monde Chrome qui arrivent enfin sur WebKit, sur Safari. Je suis vraiment content de voir ça arriver. Des petites previews aussi. C'est bien, vous mettez le curseur sur l'onglet et vous avez une petite preview de la page sans forcément switcher d'une page à une autre. Ça aussi, c'est chouette. Fait que grosse nouveauté au niveau de macOS, c'est Safari pour moi que j'attendais et que je suis vraiment content de voir arriver.
Et le truc complètement superficiel mais trop cool, on va pouvoir créer des mémojis directement sur Mac dans Messages. Et ça, c'est cool parce que les gens qui n'ont pas d'iPhone ou d'iPad et qui n'ont qu'un Mac, et ben, pour l'instant, ils sont privés de mémojis, donc ils vont pouvoir faire leur mémojis et peut-être l'animer avec la webcam, je sais pas, ça m'étonnerait parce que c'est pas une... Enfin, pour moi, ça veut dire, tu vois, que les prochains Mac auront sûrement le même type de caméra que... Enfin, auront, comment ça s'appelle, la caméra... Attends, comment ça se dit ?
TrueDepth, là.
TrueDepth, voilà. Enfin, désolé pour la prononciation. Mais voilà, en fait, qui reconnaît les mouvements du visage, comme avec Face ID, enfin, comme sur l'iPhone. Tu vois, parce qu'en fait, si... ils parlent de Memoji sur Mac. Moi, ça fait longtemps que j'attends qu'ils améliorent la caméra sur les Mac et surtout qu'ils intègrent c'est superficiel par rapport à tout ce dont tu viens de parler par rapport à Safari, mais je suis contente que Message aussi évolue et qu'on se dise pas c'est un peu le parent pauvre de Message, puisqu'actuellement Message sur Mac c'est quand même un peu limité. Donc c'est cool. Et puis après, clairement, voilà, il y a vraiment Safari, c'est vraiment le... Avec la nouvelle interface, c'est vraiment le gros morceau de macOS 11. Plus donc Messages et puis Plan qui va intégrer des... Tu en avais parlé, ça. Plan qui va intégrer des guides.
Ouais,
c'est vrai. Créés par des gens. Mais aussi sur Mac, vous allez pouvoir créer vos propres guides. Et vous allez pouvoir dire... créer un guide pour dire, bah, visitez ça. Après, vous mangez là, vous faites ça, une balade en vélo, etc. Et puis, on va pouvoir partager nos guides avec nos amis. Donc c'est sympa de se créer des petits itinéraires comme ça, avec des restos, des lieux à visiter, et pouvoir partager ça avec nos amis ou nos proches.
Je pense c'est vraiment cool ça. J'avais ça sur Google Voyage, je pense, où on pouvait créer des petits guides. Là, on va pouvoir les créer. Puis évidemment, ça va marcher sur iPad, sur iPhone et sur macOS, création des guides. J'ai vraiment hâte de voir ça. Plan, ça améliore, hein. Plan, j'aime de plus en plus tout ce qu'ils font. Les guides, c'est encore une amélioration. Au niveau de macOS, tu en as pas parlé, mais on va avoir des notifications un peu plus intelligentes. Je vois le calendrier, je vois certains trucs qui vont pouvoir mieux apparaître. Hein.
Oui, le centre de contrôle, le centre de notification, pardon, va. En fait, je pense que ça va reprendre l'idée des widgets en fait sur sur iOS et iPadOS, c'est que ça va certains sur iPadOS et iOS, apparemment certains widgets vont s'adapter à notre journée et vont pouvoir afficher telle ou telle info en fonction du moment de la journée. Donc, je pense que ça sera un peu le même principe sur Mac. Par exemple, quand on a un rendez-vous qui va s'approcher, peut-être que le widget va afficher le rendez-vous en plus gros ou je sais pas, faudra voir ce que ça donne. Bien sûr, tout ça, c'est en bêta pour l'instant. Donc, je pense que toi comme moi, on n'a pas testé encore parce qu'on a besoin de nos appareils pour travailler. Enfin, moi, c'est mon cas. Je sais que macOS 11, je vais forcément l'installer le mois prochain, là, ce mois-ci, quand elle sera en bêta publique. Mais je l'installerai bien sûr sur un support externe. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça.
Oui, à part Safari, technologie preview que vous pouvez télécharger d'ores et déjà sans rien abîmer de votre Mac. Non, effectivement, c'est juste les devs pour le moment. Les bêtas publiques arrivent bientôt. Vous pourrez tester. Encore une fois, est-ce qu'on conseille à monsieur, madame, tout le monde de tester le bêta public?
Bah, c'est public, donc si vous avez envie de... Par contre, moi, je conseille de l'essayer, mais sur un support externe, de démarrer votre Mac sur un support externe comme un petit SSD ou un disque dur pour démarrer non pas sur votre disque dur principal avec votre Mac tel qu'il est habituellement, mais pouvoir démarrer sur un nouvel OS comme ça, c'est bien de faire ça en externe pour justement ne pas bousiller votre machine tout simplement ou faire en sorte que des choses ne marchent plus parce que clairement on va avoir beaucoup de gens qui vont pleurer, qui installent déjà des bêtas alors qu'ils sont pas développeurs, puisque pour l'instant c'est réservé aux développeurs, mais voilà, il y a quand même des gens qui râlent déjà. Alors que j'avais dit, s'il vous plaît, ne râlez pas cette année, ou alors n'installez pas de bêta. Puisque ce sont des bêtas, il y a des bugs, c'est normal. Mais bon, le monde est ainsi fait, qu'est-ce que tu veux.
Mais est-ce que tu as des ressources pour expliquer comment installer, si des gens voudraient tester au niveau de l'auditoire, comment installer une bêta sans impacter son système et comment démarrer sur cette façon-là? Est-ce que tu as de ça sur ton blog ou sur une vidéo que tu aurais fait?
Alors, je vais bientôt publier ce soir normalement une vidéo là sur créer une clé de démarrage pour installer macOS sur son ordi sans avoir besoin d'une connexion internet. Donc ça, c'est une façon plutôt sympa d'installer macOS plus vite et de pouvoir dépanner son Mac en démarrant sur une clé USB. Après, la bêta publique de mémoire, en fait, elle se télécharge sur le site d'Apple et quand on la lance, il nous demande sur quel disque on veut installer. Et là, il faut choisir un disque dur externe ou un SSD, c'est mieux, c'est plus rapide. Mais c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est quand même bien, bien expliqué.
Fait qu'en suivant ta vidéo, on va savoir comment le faire.
Ouais, voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Bonne idée, je vais voir.
Excellent. Ça fait le tour un peu des nouveautés. Audrey, cette année, au niveau de ta chaîne YouTube, toi aussi, tu as participé à l'éducation ou à l'information des gens. Tu as créé des vidéos pour montrer visuellement toutes les nouveautés.
Ouais, j'avais pas prévu de le faire en fait, mais la semaine dernière, j'ai fait 4 vidéos pour une par système en fait, donc iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 et macOS 11. Donc c'est des vidéos de 4-5 minutes qui montrent les principales nouveautés. J'ai trouvé la bonne formule parce que je voulais pas, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas en faire au départ parce qu'il y a plein de gens sur YouTube qui le font et puis je voulais pas faire une vidéo face caméra, enfin c'est pas trop le truc qui m'intéresse, donc j'ai réussi à trouver une bonne formule en mélangeant images et explications et apparemment ça plaît, donc c'est plutôt cool. Donc oui, bien sûr, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour voir ces vidéos, donc c'est formation Apple sur YouTube. Vous êtes les bienvenus.
Et vous allez avoir visuellement toutes les nouveautés dont on a parlé. Dans les notes de l'émission, on va continuer le fil avec les pensées et réflexions. On a un peu abordé ça quand on a parlé de MacG, Audrey, toi, tu voulais parler de la gratuité sur Internet.
Oui, ben, rapidement. Non, je vais juste faire un petit rappel. Quand vous consommez du contenu, que ce soit comme là, en podcast ou sur un blog, ou la plupart du temps, c'est du contenu qui est fait gratuitement par les gens. Mmh. Donc les gens, ben, ils prennent du temps, ils prennent souvent par passion, hein, comme toi et moi, on a envie de partager notre passion, donc voilà, on fait un podcast. Donc je voulais juste vous dire aux gens qui nous écoutent d'être un peu indulgents et que l'erreur est humaine. Donc on a souvent beaucoup de retours positifs, on a parfois des retours négatifs. Mais comme Mathieu me l'a si bien dit, concentrons-nous sur le tas d'avis positifs qu'on a sur ce podcast et non pas sur les quelques personnes qui râlent parce qu'on s'est trompé dans une info. Bon, voilà, pas très grave. Donc voilà, soyez indulgents avec les gens qui vous proposent du contenu gratuit sur le web parce que c'est des gens passionnés. Et puis voilà, c'était tout.
Ouais, ben c'est ça, j'abonde dans ton sens. On fait des erreurs, puis c'est humain. Mais c'est parce que on veut suivre les technologies. Des fois, on s'avance. Moi, j'en ai fait. Puis, puis ça fait du contenu pour les prochaines émissions. On s'excuse. Puis, on
rattrape. On fait des erratums. Voilà.
Et ça fait du contenu pour les prochaines émissions. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, une citation que j'aime bien, qui est dans le domaine des technologies assez intéressante. Je remarque, vous remarquez tous, que Apple va très vite dans les nouveautés. Ça peut être déstabilisant à certains égards. Ça va très vite dans les nouveautés technologiques partout. Ça va très vite. Mais si vous êtes dans l'industrie des technologies et que vous trouvez que ça va trop vite, ça veut dire que vous êtes nécessairement à la bonne vitesse. Vous suivez quand même les technologies. Si vous pensez que, si vous trouvez qu'au niveau technologie, tout va bien, tout est sous contrôle, c'est que normalement, vous n'allez pas assez vite en technologie. C'est une citation, je pense, c'est de Mario Andretti, là, j'ai trouvé l'image rapidement. C'est une citation, si tout semble sous contrôle, c'est juste que vous n'allez pas assez vite. C'est de Mario Andretti. Certains m'enverraient des images de Gilles Villeneuve avec un aileron tout pété qui allait trop vite. Oui, ça arrive aussi des fois qu'on fasse des dégâts quand on va trop vite, mais ça va un peu en lien avec ce qu'Audrey disait, c'est que on essaye de suivre et des fois, ben il y a des petites accros et des petites erreurs, mais on suit la technologie va vite, alors mais on la suit au moins on va assez vite pour la technologie, mais effectivement, des fois, on dérape un petit peu, on va trop vite dans un virage et ainsi de suite, un peu comme Mario Andretti.
Mais tu sais, ce qui est drôle dans cette histoire d'Internet, c'est que quand j'écrivais pour un magazine papier, donc quand il part chez l'imprimeur, c'est écrit. Si tu veux, si 3 jours après, tu te rends compte que tu n'as pas donné la bonne information ou que l'information que tu avais eue n'était pas bonne, parce que c'est peut-être aussi ça, c'est imprimé, c'est fini. Tu ne pouvais pas revenir en arrière. Tu vis avec ton erreur, c'est pas si grave. Mon ancien patron disait souvent « on vivra avec », et c'est une phrase que j'ai retenue. Parce que souvent je me dis bon, ben on vivra avec, ça va pas nous tuer, c'est pas grave. Et on faisait un erratum dans le numéro d'après. Tu vois, c'était admis comme possibilité de se tromper. Les gens étaient pas choqués. Et donc ben voilà, garder cet état d'esprit. Si on se trompe quand on dit c'est tel cadran ou telle matière ou machin, ben c'est pas grave. Voilà, ça arrive, on dit pas que des bêtises, heureusement, sinon on ferait pas ce podcast, mais ça peut arriver qu'une ou deux erreurs s'est glissées dans ce podcast. Tiens, ça ferait un beau sous-titre. Et voilà, mais c'est vrai que nos deux réflexions du mois se rejoignent plutôt bien.
Oui, effectivement. Alors, pour rappel, si vous voulez discuter sur ce sujet des erreurs, si vous voulez soutenir Audrey... d'abord, comment on peut faire
Mathieu.
Pour te suivre? Ou Mathieu, oui, mais Audrey...
Oui, on peut acheter ton livre aussi, hein?
effectivement.
D'ailleurs, il faudra que tu nous en parles.
Oui, justement, un petit aparté, une petite digression. Pour ceux qui aiment créer des livres, on en a déjà parlé dans Apple différemment, l'application iBook Author, qui permettait de créer des livres, des e-books numériques facilement. Apple, discontinué, c'est fini. Vous pourrez plus utiliser cette application-là. Je sais que toi, tu l'utilisais. Oui. Moi aussi, je l'utilisais. J'avais appris à l'utiliser puis à l'aimer. Maintenant, petite tristesse hein, pour ceux qui écrivent des livres numériques. Audrey n'est plus là.
Si, je suis là.
Oui, ok. Petite tristesse. Petite tristesse. Toi, ça te fait un petit peu de peine de redevenir. En fait, on va pouvoir maintenant continuer à créer des livres, mais juste sur Page. Alors,
Alors j'ai vraiment hâte que Page, parce qu'il y a des fonctions qu'on n'a pas encore dans Pages, qu'on avait dans iBooks Author, comme l'étape des matières et tout ça. Enfin, il y avait une facilité. On peut en faire dans Pages, attention, mais pas avec une aussi grande facilité. Ou faire un glossaire, par exemple, avec iBooks Author, c'était très simple. Donc, OK, ils font disparaître iBooks Author, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut vraiment qu'ils nous mettent les mêmes fonctionnalités et les mêmes façons de les utiliser, enfin, du moins avec autant de simplicité, dans Pages. Et puis bon, là, voilà, tant qu'on peut faire ce qu'on a besoin de faire, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'était cool comme application, j'aimais bien.
Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient acheter nos livres, nous, on les crée avec iBook Author. On en a déjà parlé dans des émissions. Ben là, on fait un erratum. Utilisez Pages maintenant. Utilisez plus iBook Author. Et si vous nous écoutez dans les derniers épisodes rapidement en rattrapage, ben on est désolé. On vous a donné un mauvais conseil il y a quelques minutes ou quelques jours ou quelques mois. Ben. Oui, alors, on va revenir à toi. Toi qui donnes toute la crédibilité à ce podcast.
Ah, mais arrête de dire ça.
OK. Audrey, on te suit où et on peut interagir avec toi où sur Internet?
Alors, comme d'habitude, sur Twitter, @AudreyCoulot, je suis toujours là, quasiment. Hein, Twitter, c'est ma deuxième maison. Sinon, sur mon site web, formationapple.fr, vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes mes vidéos, mes formations, mes articles, enfin voilà, ouais. tout ce que je fais en ligne est disponible sur mon site web. Et toi, Matt?
Ben moi, c'est sur profduweb.com. Sur Twitter aussi, c'est ma deuxième maison, c'est là où je m'informe, où je fais attention de m'informer, en fait, maintenant. Pour en revenir à toi, Audrey, tu es aussi sur Mac Génération, tu écris là-dessus, t'as tes vidéos YouTube, t'as ta compagnie pour des formations et évidemment si on peut acheter ton contenu aussi sur iBook Store. Moi c'est à peu près la même chose, sur iBook Store vous pouvez acheter mon contenu et vous pouvez aller sur mon Patreon si vous êtes intéressé à me soutenir un peu plus directement toutes mes créations. On se souhaite un bon mois de juillet, on est le 1er juillet, tiens d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais c'est la fête du Canada aujourd'hui, alors on fait ce podcast.
Bonne fête le Canada.
On enregistre ce podcast, merci le Canada, te remercie. On enregistre ce podcast à la fête nationale et le prochain devrait être encore une fois à la fin du mois en théorie. Et on vous souhaite un bel été, hein, Audrey?
Oui, un bon mois de juillet et puis on se retrouve le mois prochain.
Salut, ciao, ciao. We'll be right back.
Salut, à bientôt!